tout le monde. Auditeurs, auditrices, bonjour. Spectaculaire commence enfin. 14h06. Quel retard. Ce n'est pas grave, ça va très bien se passer. Mercredi 13 décembre 2023, émission numéro 315. Francis n'est pas là. Christophe Rolland, en revanche, je suis bien au micro. Francis n'est pas là, il sera là a priori la semaine prochaine, mais je suis en fort bonne compagnie. Ils sont trois. Raphaël Colson est présent. Nils est également là. Il y a même aussi Grim qui pourra peut-être intervenir pendant l'émission pour nous parler de la. Pour présenter la galerie de Boscop. Un nouveau, ou je crois qu'on peut l'appeler nouveau, il est peut-être qu'il a un peu d'ancienneté, mais pas tant que ça non plus. Un nouveau lieu du 7e arrondissement, un lieu, on peut le qualifier, je crois, de alternatif, un lieu différent, un lieu spécial, qui propose des expositions, maintes choses. Il s'agit de la galerie de Boscop, dans le 7e arrondissement, sur la rue Sébastien Griff, au numéro 60-62. Et là, actuellement, il y a une exposition bon, qui se termine. Cela n'est pas faux, exposition Rebel Girl sur la musique punk, musique féminine, interprétée par des artistes féminines, mais aussi musique féministe, musique engagée. Donc l'exposition se termine, mais Raphaël aura certainement beaucoup de choses tout de même à nous dire sur cette exposition, puis sur la suite, car oui, il y aura une suite Théâtre de la Croix, enfin disons sur la Croix-Rousse, puis à d'autres endroits. Imaginez-vous sur 50 ans d'espace, enfin du moins, ça fait quand même une belle durée. Ils sont donc là pour nous en parler. Nous allons commencer avec de la musique qui est également féminine et féministe, extrait de l'album La Femme, par les artistes du groupe La Femme. On va écouter un premier titre pour nous lancer dans cette émission. On parlera donc de l'exposition Rebel Girl, du lieu également, la galerie, l'ai-je nommé, de Boscop. Et nous parlerons encore d'autres choses, des petites annonces en fin d'émission, puis d'autres choses aussi qui sont à l'actualité de la galerie de Boscop, et puis de manière plus générale, un peu à Lyon. Commençons donc avec La Femme, le titre de La Femme, le groupe. Et nous continuerons avec de la musique pop, vous verrez, la musique pop, n'importe quoi, la musique punk. Vous verrez, il y a un peu de tout, hein, américain certes, mais je crois même qu'il y a du coréen, il me semble, ou de l'asiatique. Nous commençons, et vous nous écoutez, vous faites très bien sur le 102.2 de la bande FM à Lyon. Excellente chose, si c'est sur internet, c'est radiocanu.org. et voilà, c'est bien, on a entendu le titre en entier. La femme, c'est le nom du morceau. La femme, c'est également le nom du groupe. Le nom de l'album, je l'ai sous les yeux, c'est extrait de l'EP. Je vous le donne en mille, auditeur auditrice. La femme également. EP sorti alors en 2013 a priori. Moi, j'ai l'extrait d'une compilation des Arts Occuptibles. Le volume 2 de l'objectif 2013. C'était bien pour lancer cette première partie d'émission sur nos invités. Ça introduit également un peu la deuxième partie qui sera sur l'actualité de nos invités. Raphaël Colson et Nils viennent nous parler de la galerie de Boskop, un lieu que je qualifie d'alternatif, mais ils vont nous en dire certainement davantage, qui se situe dans le 7e arrondissement, la rue Sébastien Griff, à la hauteur du numéro 60, je crois 62. Il y a le bar des artistes juste à côté.
Qui est juste à côté. Ouais.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Bonjour Nils. Alors voilà, en deux mots, même davantage, en 10 mots peut-être, comment présenter les artistes ou à défaut d'artistes, je ne sais comment nommer, les commissaires d'exposition, les responsables culturels que vous êtes à Lyon, comment brosser un petit parcours. Je crois que Nils, il y a un petit peu de collège Raoul Dufy à l'intérieur. Raphaël, il me semble qu'il y a la librairie Glénat, je crois même qu'il y a une voilà. Publication aussi aux Moutons Électriques, même plusieurs publications, une steampunk, une autre Ayao, c'est son prénom je crois, Miyazaki.
Tout à fait.
Raphaël, comment vous présentez ?
Me présenter comme une personne qui depuis quelques années bricole autour du champ de l'imaginaire, comment dire, des activités culturelles, voilà. Donc j'ai eu une vie de libraire, j'ai eu une vie effectivement où j'ai travaillé pour une maison d'édition, Les Moutons Électriques, où j'ai publié un certain nombre d'ouvrages autour de l'imaginaire, la science-fiction, le rétrofuturisme, les zombies, et un livre sur Hayao Miyazaki.
Et ils étaient lyonnais à une époque, je crois.
Oui, ils étaient lyonnais, puis ils sont passés sur Bordeaux. Donc voilà, j'ai vécu voilà des tas de petites expériences, mais on va dire que la dernière grande étape pour moi, c'est 2019. Il y a eu du changement. J'ai rejoint à cette époque l'équipe des Intergalactiques, donc le festival de science-fiction sur Lyon, au titre, on va dire, de chargé d'exposition, puisque je m'occupe des deux expositions au sein des Intergalactiques, l'exposition iconographique et puis une exposition autour d'une ville en Lego, une ville rétrofuturiste en Lego que je fabrique justement depuis 2019. Puis j'ai aussi fait pas mal de petites recherches à droite à gauche, des petits projets.
Post-apo, je crois qu'il y a eu ça à une époque.
Pendant presque 10 ans, effectivement, j'ai fait des recherches. Je commence à produire lentement, on va dire, un résultat de ce travail de recherche.
Un livre était prévu, mais c'était un peu difficile.
C'était très compliqué.
Le référencement était notamment compliqué, je crois que c'est ça.
Voilà. Et puis même surtout la taille, le champ de la recherche qui était beaucoup trop large. Mais il existe, et c'est encore pour l'instant sur le site des Intergalactiques, on va dire les 4 premiers chapitres, qui sont sous forme de PDF, avec beaucoup d'infographies. Donc voilà, mais c'est un projet que je vais remettre en selle à un moment ou à un autre, parce qu'entre temps, voilà, j'en arrive à notre sujet du jour, le Boskop.
Il faudrait peut-être dire deux mots des Intergalactiques, parce que j'ai l'impression que nous faisons comme si les auditeurs et les auditrices, comme si moi-même, je savais bien de quoi il retourne. Or, je ne suis pas tout à fait. C'est un festival.
Alors, sachant qu'on a fait beaucoup d'émissions justement sur Radio Canu, donc je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent les Inter. Et sinon, oui, les Inter, on en est à la 12e ou 11e, ça y est. Je me fais vieux. C'est la 12e édition. Et
c'est la
12e. Ouais. 12e. Donc c'est un festival voilà, qui commence à avoir de la bouteille. Un festival marqué par une programmation cinéma, un gros travail autour de table ronde, autour d'une thématique. Donc chaque année, il y a une thématique. Donc pour 2024, notre thématique, c'est du pain et des jeux. Donc on est en train de préparer voilà une belle édition articulée voilà autour donc du pôle auteur invité, table ronde, projection ciné, exposition, rencontre, il y a beaucoup de choses.
Les dates fluctuent, non? C'est pas toujours en octobre, je crois.
C'est toujours au mois d'avril.
Toujours avril?
Ouais, toujours en avril.
Il y a une édition qui était un peu plus tardive dans l'année.
Ça, c'est les effets du Covid. Puisqu'on a une année, on n'a pas pu la faire et du coup, on a essayé de la rattraper. On a fait 2 éditions sur la même année, post-Covid. Donc voilà.
Donc les dates prochaines en 2024,
elles sont en avril et je retiens jamais les dates parce que mais c'est toujours en fait sur la période scolaire, les vacances scolaires sur avril. Voilà. Et donc c'est la 2e ou 3e semaine. Je crois que là c'est la.
Et c'est sur plusieurs lieux, c'est ça?
C'est essentiellement sur la MJC Mon Plaisir. Donc tout est basé là-dessus, mais après on a une programmation cinéma qui peut se retrouver au Zola par exemple, ou dans le réseau Lumière, donc des cinémas en presqu'île, voilà. Donc, et puis il y a pas mal de lieux off, et notamment pour cette année il y aura le Boscope justement, qui va servir de base arrière, voilà.
Du cinéma, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de parler de Rebel Girl, qui est une exposition qui... notamment se présente dans cette galerie avec des pochettes d'albums, mais il n'y a pas que des pochettes d'albums. Je n'ai plus le flyer sous les yeux. Il ne serait pas convenable, il ne pourrait pas suffire de parler de punk music qu'avec des pochettes d'albums. Donc voilà. Il y a des projections. Voilà. Donc il y a un film qui arrive vendredi, mais nous avons d'autres invités. Nils est également présent. Nils, en quelques mots, comment brosser votre parcours aussi? Jeune, je ne sais pas quel est le terme qui existe. 18-tenaire depuis quoi? Un mois et demi?
Ouais. C'est ça, ouais, je viens d'être majeur, quoi, il n'y a pas longtemps, donc je viens de finir le lycée, les études c'est pas trop mon truc, donc je me suis, de toute façon ça fait un petit moment depuis le lycée que j'aidais pour les intergalactiques, et puis il y a le Boscope, donc la galerie du Boscope qui est venue juste après, mais ouais, donc je gravite un peu autour de ce milieu-là, et donc je donnais des coups de main et tout, j'ai pu par le Boscope, et puis maintenant cette année par les intergalactiques être programmateur. Donc de la programme ciné et tout, et donc d'ailleurs c'est moi qui m'occupe du film qui sera projeté vendredi, dernière soirée du projet Rebel Girl.
Voilà, vous dites il y a quand même chez vous quelque chose avec l'image.
Ah oui,
c'est stop
clair.
Motion, animation, long métrage, court métrage, moyen métrage.
Bah ouais, sur mon temps libre, je bricole 2-3 trucs, des petits courts métrages par-ci par-là. Donc voilà.
Réalisateur, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et puis scénariste.
Et il est même en train de monter son premier grand, on va dire, moyen métrage, court métrage.
Ouais, non, mais voilà. Moyen métrage, ouais, je pense qu'il va bien arriver vers 30 minutes.
Voilà. Plutôt derrière la caméra que devant.
C'est ça. Après, des
écriture.
Fois, écriture, réalisation, et des fois, bon, pour m'amuser, je me mets devant pour bien rigoler.
Voilà. Directeur de la photographie aussi, vous faites vraiment
tous les postes. Oui, parce que du coup, manque d'avoir une vraie équipe derrière. Mais ouais, c'est ça.
Vous avez tout de même sévi, hein, je crois. Il y a quelque chose, un projet lycéen qui a existé, non? Je crois l'avoir vu. J'ai déjà un peu oublié la chose. Un projet première terminale, non? Qui était un court métrage, non? Quelque chose, un peu de stop motion, il me semble. C'était.
C'est vrai qu'au lycée, on a eu plusieurs projets, mais après, c'était au collège aussi. On avait eu un petit projet de court métrage qu'on avait fait en quatrième. Je sais pas si... Enfin voilà, mais au lycée, oui, on en a plein. Puis pour le bac, on devait faire un court-métrage aussi. Donc,
Est-ce qu'on peut voir cela ou non? Ça n'est pas d'accès public.
Il y a plein de choses qui ne sont pas publiques, mais j'ai posté 2-3 trucs sur YouTube, une chaîne qui s'appelle Stupid TV. Mais bon, après, il y a 2-3 petits courts-métrages en stop-motion qui sont intéressants. Après, le reste, c'est surtout des blagues. Et puis, mais le court-métrage que je suis en train de faire sortira là-dessus.
C'est intéressant quand même, un aspect une forme de dérision, donc on peut se moquer des choses, mais aussi parfois les prendre au sérieux, et donc peut-être pourrions-nous déjà arriver à ce film de vendredi. Vous avez, avant de le présenter lui-même, parce que ce sera plutôt la deuxième partie d'émission, vous avez une connaissance aussi, vous avez tout de même beaucoup vu de films. Oui.
Ah bah oui, c'est le but, c'est tous les jours d'en voir de plus en plus, donc et de creuser. De toute façon, il y a toujours un truc à découvrir, donc...
Raphaël.
Non, juste lui rappeler, précision. Il a juste oublié qu'il a fait le lycée en spécialisation cinéma.
Oui. Voilà. On peut peut-être l'indiquer. Voilà. Mais c'est intéressant ce propos que vous tenez, Nils. En fait, c'est peut-être pas tout artiste, mais quand même, il est toujours bon pour un artiste d'avoir une connaissance de son domaine, ce dans quoi il agit.
Bah oui, déjà d'une, et puis même du domaine artistique en général, parce que tout peut apporter quelque chose. Enfin, tout peut apporter quelque chose quand on réalise un truc. On peut prendre des influences de chacun, et puis je sais pas, que ce soit le monde de la musique ou même de la peinture, ça peut toujours nous influencer pour quelque chose, ou sur une scène avec une musique quelconque pouvoir évoquer quelque chose de par la musique et de son histoire aussi, donc c'est un mélange en fait.
J'ai un titre d'exposition qui a commencé, je crois, le 1er décembre dernier. Je suis en train de mettre la main dessus. Une exposition qui se tient au Musée des Beaux-Arts, qui a commencé, c'est ça, le 1er décembre, vendredi dernier, qui se tient jusqu'au 3 mars prochain. Forme de la ruine. C'est au musée des Beaux-Arts, sur la place des Terreaux. Est-ce que, à défaut l'exposition elle-même, est-ce que ce titre vous parle un peu, la ruine des vestiges? Est-ce que ça peut être du cinéma qui vous intéresse ou non? Vous êtes plutôt post-apocalyptique? Ah bah alors mince, si c'est pas des ruines qu'on a dans Mad Max. Ouais. Il existe même, je crois, une novélisation de Mad Max, je me suis laissé dire.
Ouais, bah oui, non, les ruines, enfin moi j'aime beaucoup les frichures urbaines de toute façon, donc le post-apo j'aime bien, c'est le domaine de
Raphaël Cosson,
ouais, de Raphaël. Mais donc moi je, c'est pas que je m'en détache parce que j'aime beaucoup aussi, mais j'aime beaucoup plus un côté pas, je voudrais pas dire, on va dire réaliste qui se situe de nos jours, mais pas forcément réaliste parce que j'aime bien aller très loin, mais oui, les ruines, ça me parle, ouais, j'aime bien.
Je crois que la transition est toute trouvée. Comment parler de ce lieu, donc cette galerie de Boskop, comment la présenter? Moi, j'ai dit lieu alternatif.
Hein.
Non. Mais attention, il y a peut-être un peu de ça. Cette rue Sébastien Griff, je l'ai parcourue récemment.
Il y a encore un côté authentique.
Il y a quelque chose, ouais. C'est une belle artère. D'ailleurs, ce nom, Sébastien Griff, imprimeur années 1520, 1530 à Lyon. On est dans le 7e arrondissement. Je crois que la naissance de cette rue Sébastien Griff commence sur le cours Gambetta, qui est donc dans le 3e arrondissement, mais on s'enfonce dans ce 7e. Et le numéro 60, on n'est pas au tout début. On a passé la grande rue de la Guillotière, on s'enfonce davantage. Et comment peut-être aller quelques instants après, on écoutera un premier titre pour parler de cette exposition à Rebel Girl, mais comment présenter ce lieu? C'est certes une grande salle, ce n'est pas une ruine. Moi, j'y suis passé. Il y a des chaises, il y a des fauteuils un peu anciens qui sont
gardés. On a gardé une mémoire,
sont sur les.
On a gardé une mémoire du lieu.
Suspendu.
Voilà. En fait, le Boskop, donc la galerie, s'est créée, on va dire officiellement, en janvier
2023.
On a eu
officiellement.
Pratiquement,
ouais.
Non, en fait, on a lancé nos activités à ce moment-là. Simplement, début mars.
Ça a duré 4 mois, quoi. 3-4 mois.
Non,
même début.
2 mois.
Non, j'ai eu le temps de faire 3. Et moi, c'était en fin de mois, donc c'était fin mars.
Ouais, alors fin mars. Donc, on a dû fermer, en fait, parce qu'il y a un problème au niveau de l'immeuble. Et donc, il y a des travaux.
Vétusté, non, c'est ça?
Non, c'est le toit qui est en train de.
Oui, mais voilà, c'est un toit un peu vétuste, je suppose, non?
À l'ancienne.
Dans le bâtiment quoi? 18e, 19e?
19e, c'est un bâtiment 19e. Et donc, du coup, on a eu 3 mois d'activité où on a testé, expérimenté des choses, notamment.
Un lieu d'exposition, de rencontre, de.
Lieu d'exposition d'une part, et lieu aussi labo culturel. C'est-à-dire qu'on expérimente des choses, mais la base étant une galerie d'exposition. Donc on a pu réouvrir en octobre, et donc là on a relancé en fait donc la machine qui fonctionne maintenant sur un principe d'à peu près une fois par mois il y a une exposition. Donc il va y avoir là beaucoup d'artistes avec des genres un peu différents.
Enfin, une fois par mois c'est tout sur le mois, mais chaque mois ça change.
Une fois par mois.
Ouais. Non, je sais pas, ça sonnait bizarre.
Tous les mois, il y a une exposition d'artistes différents. Donc, il y a des projets qui se mettent en place. Donc, en octobre, on avait fait tout un travail autour du folklore autour d'Halloween. Et puis là, donc de mi-novembre à mi-décembre, pour finir l'année, j'ai organisé une exposition autour de Rebel Girl, donc 50 ans de musique féminine et féministe, mais en sachant que c'est tout un travail autour en fait de la mixité et des groupes entièrement féminins. Donc simplement dans ce projet est exclu les groupes entièrement masculins.
J'ai manqué la chose. Il y a eu donc une sorte de réouverture en septembre, c'est ça?
En octobre.
Avec une sorte de forme de vernissage un petit peu.
Oui, voilà. On a fait une vernissage. On a relancé l'aventure. Mais donc sous le principe d'avoir à peu près donc une exposition mensuelle avec des activités annexes autour.
Et qu'est-ce qui a commencé donc en octobre?
En fait, on a fait une petite exposition de mise en place liée au vernissage du relancement du lieu autour de l'exploration spatiale. Donc ça, c'était sur octobre. Mais là, on a eu des décalages, c'est pas vraiment, on va dire, du 1er au 30. Donc, on a lancé, voilà.
Oui, de la même manière, Rebel Girl se terminera le 15 décembre.
Oui, voilà. Donc, voilà. Et après, donc, pour fin octobre, autour de la fête d'Halloween, on a fait une soirée spéciale Halloween. Et mon camarade Jal, qui s'occupe, qui est le maître d'œuvre du lieu.
Qui est déjà en train de bosser sur la Guillotière, je crois,
oui,
à venir
tout
en janvier
à fait.
Prochain.
Alors, pas en janvier. Du coup, c'est décalé plutôt pour la rentrée 2024, parce qu'en fait, c'est un énorme travail de recherche. Et on a pris la décision de décaler pour pouvoir, en fait, mieux travailler en amont avec tous les acteurs en fait du quartier pour pouvoir construire en fait une exposition pour le coup plus ambitieuse que ce qui était prévu. Voilà. Donc on ajuste, c'est la notion justement pas de géométrie variable mais de comment dire d'être pragmatique et de savoir en fait rebondir, trouver des solutions. Donc par exemple en janvier a priori s'esquisse, mais là j'irai directement, là c'est Jal, une exposition SF avec un artiste qui est passé, voilà, qu'on discutait. Donc en fait ça bouge tout le temps. Il y a ce côté être vivant en fait, être vif, savoir rebondir. Tout ça, ce que je dis là, tous ces petits mots, c'est pour annoncer aussi la suite. Voilà, et on a eu donc ouais autour de, alors j'ai complètement mangé le nom, mais autour donc d'octobre, autour d'Halloween, Jal a développé tout un petit programme avec une exposition d'artistes qui ont exposé leur œuvre, mais plutôt dans une ambiance folklore, mythe, mythologie, et c'est Saïm, j'ai oublié le nom. D'accord. En fait, un terme mythologique, voilà. Donc,
L'exposition Rebel Girl, elle a commencé, a priori c'était un samedi, le samedi 18 novembre oui. dernier, elle se termine, auditeur, auditrice, cela est terrible, nous sommes le mercredi 13 aujourd'hui, encore jeudi 14, vendredi 15 décembre, elle se termine avec une projection, la projection du film L'Ange de la Vengeance, un titre original, je sais, MS-45, c'est le calibre du flingue de l'héroïne, c'est ça, un film d'Abel Ferrara, 1981, film américain. Petite durée, toujours très bien, 1h20. La projection est de 20h à 21h30. Il y a ensuite à 22h un débat sur la figure de l'héroïne, Vengeresse, animée par Alban Jamin, qui est enseignant spécialiste en cinéma. C'est la soirée Dead Men Don't Rape, les hommes morts ne violent pas. Soirée consacrée donc à ce mouvement Riot Girl. Riot Girl.
Alors ça c'était avant ça.
Au Chip Punk Connection. Oui, c'était un peu avant, mais il me semble que tout cet amour était très juste. Je suis en train de feuilleter tout ce flyer. C'est en rapport avec cette musique, cette exposition Rebel Girl. Et donc, si vous souhaitez en savoir davantage, auditeurs, auditrices, on va écouter un premier morceau.
Alors, donc moi je propose donc dans ma playlist le morceau incontournable parce que c'est le morceau qui a donné corps à toute cette exposition. C'est tout simplement Bikini Kill, Rebel Girl.
Sur l'album.
Le classique, voilà. On ne peut y passer. Et oui, là, le morceau était juste sur la bande-annonce du film documentaire qu'on a diffusé samedi dernier. Et je reviendrai là-dessus.
Donc, c'est très, très bien lancé, mais je n'étais pas tout à fait prêt. Nous écoutons ce titre. Mais pour, je rappelle la chose, il est presque 14h30. Nous parlons bien de l'exposition Rebel Girl. 50 ans de musique féminine et féministe. Le terme a son importance. Exposition visuelle et sonore du 18 novembre jusqu'au 15 décembre prochain, vendredi. Cette exposition se tient à la Galerie de Boskop, qui est un lieu qui se trouve au 60, oui, numéro 60 rue Sébastien Griff, dans le 7e arrondissement. Site internet, je ne l'ai pas indiqué, boskop.org. Nous sommes prêts à écouter Rebel Girl, un titre d'artiste Bikini Kill sur l'album Punk Singer. Raphaël, c'est ce titre qui a tout lancé, c'est ça?
Oui, c'est ce titre qui a tout lancé. Bah, Kathleen Anna, Bikini Kill, c'est à l'origine du mouvement Riot Girl. Donc, on ne pouvait que choisir ce morceau. C'est incontournable, en fait. Donc, voilà. Et, donc, on va l'écouter.
Raphaël vient de le dire. Oui, le punk, c'est ça. Le punk, c'est court, 2 minutes 30 de.
Ouais, c'est long encore. Hein.
C'est long.
C'est encore long.
Ouais, ouais,
je
c'est
pourrais juste
citer minute,
un morceau de, ah bah. Du groupe Charlotte Matou Umkara, groupe de brésilienne. On a réussi à trouver un morceau de 30 secondes. Hein.
Wow,
qui est une reprise c'est... de Saïra, 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 les Aristos à la lanterne. Voilà.
Je pensais que les Pixies faisaient court. Hein, ils sont battus Rebel Girl, le titre, de, titre phare de, du groupe Bikini Kill sur l'album Punk Singer. Une date peut-être, Raphaël, pour ce morceau
Alors le
90
le morceau
90,
de 91, il me 91, semble, 90. Bah non, elle naît en 91.
Le groupe officiellement se crée en 91 91. Et le morceau doit être sur le deuxième.
Non, il est sur, en fait, c'est pas les premiers albums, le ouais. morceau est sur un, une sorte de compile qui regroupe les premiers morceaux, ça s'appelle The First to Record, donc c'est une sorte de compile, mais en fait, ça c'est comme un peu leur premier album avec tous les morceaux qu'elles avaient joués avant et qu'elles n'avaient pas forcément placés dans un truc.
Et puis bon, sur la playlist, j'avais retrouvé la date, mais je m'en souviens
ouais.
plus. Là.
Auditeurs, auditrices, les propos de Raphaël et de Nils ont leur importance parce que c'est ce titre-là, vous l'avez indiqué, Raphaël, qui a lancé, qui est à l'origine de cette exposition Rebel Girl, 50 ans de musique féminine et féministe, exposition visuelle et sonore. Qui a déjà commencé le 18 novembre dernier, qui continue encore ces jours-ci, jusqu'au
et
15 décembre
va,
prochain, qui aura même toute une suite.
Voilà,
on va l'évoquer dans quelques instants.
C'est loin d'être
si
fini.
Si vous souhaitez pour l'instant vous y rendre, c'est à la galerie de Boskop, au 60 rue Sébastien Griff. Les horaires, je ne les ai pas forcément indiqués, c'est plutôt l'après-midi.
Ouais, c'est 14h-18h.
Mardi, samedi, mardi, vendredi même.
C'est du mardi au vendredi. Et d'ailleurs, moi, là, je serai à la galerie demain et vendredi. Donc, si des gens souhaitent passer, je suis là pour parler un peu plus longuement du projet.
Eh bien, Raphaël, puisque vous avez la parole, comment en parler pour ce qui est de son origine, ce projet, ou à défaut de son origine, son esthétique, ce qui est présenté, ce qui est montré, puis aussi, il faudra bien le dire, hein, je crois que j'ai entendu, j'ai compris la chose, il y a une suite, il y a quelque chose,
voilà.
Un mouvement s'est amorcé qui n'est
alors,
pas encore terminé.
C'est parti, en peu de mots, je vais essayer de résumer. Non, juste personnellement... j'avais abandonné depuis au moins plus de 25 ans l'univers du rock punk pour passer à l'électro, à d'autres sons. Et il s'avère qu'en 2019, mon fils aîné, qui n'est autre que Nils, s'est mis à écouter du punk. Et moi qui étais un peu en déshérence musicale à l'époque, et ben, je me suis remis avec lui à réécouter tous les classiques. On allait vraiment jusqu'aux Racines, les Stooges, Iggy Pop et autres.
Sex Pistols, c'est les Anglais, c'est ça?
Oui, c'est les Anglais, mais bon...
C'est pas du vrai punk,
ouais,
c'est
voilà.
pas du vrai...
Donc pendant sur 2019, on a replongé un peu comme ça. Il est arrivé aussi la phase Covid. Et moi, dans mes recherches, en fait, en réécoutant des choses, j'ai découvert deux groupes féminins: Ellie Witch, des Américaines, côte californienne, et Nova Twins, groupe de Britanniques, un duo.
Année 2000 ou
alors
année 2010.
Ouais,
année
2010. 2010,
ah, ouais,
parce qu'Ellie Witch, le groupe s'est formé en 2011.
Et c'est 2014 pour Nova Twins.
Et Nova Twins, c'est 2014. Donc ces deux groupes m'ont fait un effet. Et alors, on va dire que Ellie Witch est plus son rock
c'est
garage,
du surf garage.
Surf garage. Nova Twins, c'est de l'urban punk. Donc très moderne, très...
En fait, c'est un mélange d'électro, rap et punk.
Peut-être en un seul mot, Nils, comment définir le punk? C'est quoi? C'est I am an anarchist, c'est ça? C'est quoi?
Non. Le punk, c'est, je pense, avant tout, parce que le punk, ça couvre vraiment beaucoup de choses. C'est un mouvement contestataire, un mouvement vestimentaire, un mouvement de musique, mais surtout, je pense, c'est une façon de penser. C'est un état d'esprit qui...
Contestation.
Si vous voulez un peu de contestation, et puis juste de, en fait, de. Pour moi, être punk et essayer de vivre comme un punk, c'est pas parce que tu portes une crête ou que tu t'habilles un peu sale que t'es un punk. Tu peux être punk comme tu veux, c'est tant que. En fait, c'est la manière la plus subversive de vivre par rapport à l'État, parce que c'est essayer de créer une indépendance envers la société la plus totale.
Et pur.
En fait, oui. Ouais, c'est ça. Après, c'est difficile d'y aller jusqu'au bout. C'est juste pour tirer le plus possible vers cet état d'esprit. Et puis après, c'est. Voilà.
En fait, c'est juste contester toutes les formes de domination aujourd'hui. Alors là, on pourrait avoir un grand débat, non, mais sur le rapport dominé-dominant, et qu'au sein même des dominés, il y a des rapports de force, d'autorité, de domination.
C'est clair.
Et justement, Rebel Girl s'inscrit en fait dans cette idée-là. C'est aussi de poser la question, de dire, au sein du groupe des dominés, il y a des rapports de domination, et notamment le patriarcat, le virilisme, mais qu'en même temps, on a un autre ennemi, qui est pour nous le capital. Il serait bon de rappeler que l'ennemi, le vrai, c'est celui-là, et qu'il faut qu'on règle nos problèmes, nous, au sein du groupe dominé, qui est justement de réussir à régler ces problèmes de domination au sein, voilà, au sein de cette structure. Bon. Non, on dérive.
Oui, donc Nova Twins, voilà. Et j'ai perdu Aliwitch.
Et donc du coup, à partir de ce moment-là, moi je suis rentré dans le fait que je n'arrive plus en fait à écouter des groupes masculins. Il me faut en fait cette dimension féminine, que ça soit dans des groupes mixtes ou entièrement féminins. Et moi personnellement, on en a parlé, hein, alors je suis pas du tout historien de la musique, j'écoute la musique par plaisir, j'ai aucune notion technique, simplement j'en suis arrivé juste à me dire cette contribution féminine, cette part féminine amène quelque chose d'autre. Et du coup, je me suis mis à explorer par exemple toute la scène asiatique, notamment la scène japonaise, à découvrir des musiciennes formidables, et voilà, un son qui est vraiment différent, qui amène quelque chose.
Il n'y a pas de Corée, hein, voilà. Auditeur du Triche. J'en sais Corée, il y a un peu de Chine.
Là, j'ai la Chine. Là, dans la sélection, je vous ferai écouter Demi Toys tout
mais
à l'heure.
Mais du Japon aussi, donc.
Il y a Japon. Et arrivé, ben, tout simplement, là, 2023, avec la création du Boscope. Moi, je me suis dit, bah tiens, je pourrais essayer de faire. Alors, en fait, on avait testé des soirées clips. Et je me suis dit, ah, je ferais bien une soirée clip avec que des groupes féminins ou mixtes de rock punk.
Les clips, voilà. Ce sont des tournages de concerts ou c'est vraiment...
Non, alors c'est soit des lives, soit des clips, vraiment des clips.
Ouais, ça dépend vraiment
avec réalisateur,
de ce qu'on a, voilà. De ce qui est trouvable aussi, parce qu'il y a des groupes, il n'y a que des captas qui passent. Quoi.
Et le truc, c'est que simplement, à un moment, on découvre plein de groupes. Et moi, d'une certaine manière, j'ai rattrapé plus de 25 ans de musique que j'avais oubliée ou abandonnée ou pas écoutée, et en même temps toutes les nouveautés. Et aujourd'hui, au niveau des groupes féminins et mix, c'est incroyable, à tel point que l'idée donc de l'exposition, c'est je suis arrivé à plus de 600 références de groupes sur 50 ans, 40 pays. 600 groupes sur 50 ans, ça signifie 120 tous les 10 ans, ça veut dire 12 tous les ans, ça veut dire 1 tous les mois. Ça veut dire qu'au minimum, hein, parce qu'on parle du haut de l'iceberg, c'est que depuis 50 ans, au minimum dans le monde, il y a tous les mois un groupe de filles ou un groupe mixte qui se rassemble pour monter un groupe de rock.
Enfin, quand on dit mixte, c'est quoi? Alors, mixte, c'est la femme au chant, une femme au chant tout de même, c'est
non,
ça?
Non, j'ai... alors, du coup, dans la présentation de l'expo, j'ai créé en fait trois niveaux, niveau genre. C'est les groupes entièrement, purement féminins.
C'est la majeure partie tout de même ou pas?
C'est une bonne part. J'ai pas encore fait de calcul statistique parce que c'est pas possible. Ouais. Parce que si vous voulez...
Ça n'a peut-être pas tout à fait de sens non plus.
Si, ça aura un sens à un moment. Mais si vous voulez, entre le début de l'exposition où il y a 600 formations musicales, et là aujourd'hui, donc il s'est écoulé à peine un mois, entre mes propres recherches et tout ce que les gens ont pu amener dans l'exposition, parce que les gens peuvent en fait écrire sur
contribuer,
les planches,
ouais.
Contribuer, on a déjà plus de 150 groupes rajoutés. ce qui veut dire que si on continue comme ça, d'ici un an, on atteindra peut-être 1000. Et simplement, ça permet, et l'exposition elle est là pour ça, de quantifier, de montrer cette importance. C'est que la contribution féminine me paraît beaucoup plus importante de ce qu'on a en fait en tête de manière générale. Et donc l'exposition 600 groupes, 600 formations, présentation sur une structure chronologique, donc une colonne par année civile où c'est on place en fait les pays qui les groupes qui arrivent, donc soit naissance, soit sortie d'un EP ou LP. Et on s'est dit on peut pas s'arrêter juste aux couvertures, on parle quand même de musique, donc d'image et de son. Donc du coup, le dispositif de l'exposition pendant un mois a été l'exposition physique dans le lieu et 5 soirées d'accompagnement. Donc il y a eu 3 soirées d'accompagnement avec projection de clips qui ont couvert en fait les années 70, 80, 90, 2000, 2010 et 2020.
18 novembre tout d'abord, voilà. Ensuite voilà.
Le 2 et le 9.
25 novembre et puis 2 décembre.
Le 2 décembre, et donc on a projeté à peu près 200 clips. ce travail-là va se retrouver par la suite plus tard, quand je parlerai vite fait du projet tel qu'il est aujourd'hui. On a fait une soirée la semaine dernière, donc Riot Grrrl.
Samedi 9 décembre, voilà. Riot Grrrl, oui.
Avec la diffusion donc, du...
She Punks in Action.
Voilà. Voilà. On a fait donc la diffusion du film documentaire Punk Singer sur Kathleen Anna, et sur Bikini Kill.
Donc, c'est Katy Lala,
c'est la créatrice.
C'est le titre de leur album, ouais.
Voilà.
2013, 1h20, c'est bien ces petites durées.
C'est un formidable documentaire, donc on espère d'ailleurs un jour pouvoir le rediffuser. Et en deuxième partie, on a présenté, nous, une interview qu'on a réalisée en septembre. Donc les Sub Girls, qui sont deux sœurs sud-africaines, duo rock-punk, qui sont passées au Rock and Eat en septembre. On leur a demandé de les interviewer, elles ont accepté. Et on a fait une interview, mais alors vraiment rock'n'roll.
Punk spirit.
Ouais, voilà. On a fait un truc à 2h du matin dans des boîtes aux lettres. Mais c'était génial.
Toutes trois ces productions, c'est vous, c'est ça?
Oui, voilà. Vraiment, enfin, bon, tout ça. Bah, ça
voilà, de toute façon, ça va changer un peu.
Voilà, ça a changé.
Et donc, à 22h, voilà. Table ronde
c'est, alors en fait, on n'a pas pu faire une table
difficile,
ronde.
Ouais.
Voilà, c'était un peu compliqué.
Été,
ouais, mais il s'est tellement passé de choses depuis que je vais vite essayer après de glisser 2-3 idées du grand projet. Et donc, la dernière soirée que je vais laisser
Nils
la présenter. Donc c'est voilà, bah je te
voilà, bon, vas-y. 15 décembre à 20h.
Ouais, Nils. Donc la soirée est appelée donc Dead Men Don't Rape, qui est une référence à un groupe de Riot Grrrl de l'époque, Seven Year Beach, qui donc avait écrit cette chanson. Et puis du coup j'ai choisi, comme j'avais au Boscope déjà un ciné club établi tous les derniers samedis du mois. Donc voilà, c'est un vendredi, ça change un peu. Et puis c'est pas le dernier, mais bref. Et du coup je me suis dit quel est le meilleur, on va dire un peu le meilleur film pour illustrer un peu tout ce qu'on a présenté et tout. Et puis du coup j'ai pensé à ce film qui est d'ailleurs L7, un autre groupe plus des années qui a démarré dans les années 80, en 85 précisément, qui avait écrit sur leur premier album une chanson Emmys 45, du coup qui rend hommage au film.
Et c'est
D'Abel
Ferrara.
D'Abel Ferrara, ouais, donc qui est pour moi sûrement, ouais, c'est un des meilleurs films d'ailleurs de ce genre, le Rape and Revenge, ce qui s'applique vraiment à un style très précis qui est du coup, bah, c'est dans le nom, le concept, c'est il y a un viol ou un meurtre, ou les deux carrément, et soit la personne qui est concernée, soit des proches vont se venger.
Concernées.
Vont se venger. Alors, faut faire très attention avec ce genre dans le cinéma, ce genre-là précis, parce qu'on peut très vite tomber dans le voyeurisme et dans un côté très malsain. Et donc, il y en a très peu de ces œuvres vraiment intéressantes. Et L'Ange de la Vengeance est pour moi sûrement l'un des meilleurs, car il y a vraiment un contexte féministe. Car d'ailleurs, en plus, il arrive très tard, en fait, dans la création de ce genre. Ce genre est créé à la fin, début des années 70. Et lui, il est de 80, donc il est très tardif dans l'histoire de ce genre. Et a vraiment un discours ultra féministe en bas. Et d'ailleurs, du coup, plusieurs groupes du mouvement Riot Grrrl ou tout ça l'ont approprié et l'ont mis en avant. Et donc, voilà.
Comment évoquer ce film de manière un peu aussi esthétique, oui, ouais, aussi pour ce qui est de l'intrigue, ou pour ce qui est, il y a quand même un vrai, oui, Abel, oui, Ferrara. C'est pas forcément une œuvre de jeunesse.
C'est son troisième film. Parce que, mais son deuxième vrai film intéressant, parce que son tout premier film est un film porno, enfin voilà, j'en parlerai pas. Mais ouais, c'est son deuxième film. Et alors là, c'est typiquement du Abel Ferrara, parce que déjà, c'est un film qui est fait sans rien, quoi.
Très peu de moyens.
Il a pas de thunes, non, il a payé personne. Ouais, c'est un film, c'est pour ça qu'il est très court aussi, et qui va direct droit au but. Donc c'est une femme qui est sourde et muette, qui travaille dans le milieu de la mode, qui est déjà oppressée par son travail, par son patron, et puis tous les hommes qui l'entourent. Puis un jour elle rentre chez elle, dans la rue elle se fait agresser puis violer par bref, elle rentre chez elle, et là il y a un cambrioleur. Elle se refait violer, donc là elle pète un câble, elle s'habille en nonne et va buter tous les hommes qui habitent cette terre, quoi.
Et la comédienne incarne son rôle, ouais.
Vraiment.
C'est Zoé.
Zoé Lund, ouais. Et du coup, à partir de ce film, une très bonne amie d'Abel Ferrara. Ils écriront d'ailleurs plus tard tous les deux Bad Lieutenant, un grand film.
Avec Harvey Keitel.
Avec Harvey Keitel, c'est ça. Et du coup, elle était complètement habitée par le personnage. Et,
parce que ce que je veux dire, c'est qu'en plus du propos, il y a quand même une vraie qualité dans ce film, ou esthétique.
C'est vraiment c'est un film qui est quand même qui a une image assez belle, et qui a des plans incroyables de Abel Ferrara, parce qu'il sait réaliser des films même sans avoir rien.
Mais une grande violence aussi quand même.
Le film est très très violent, ouais.
Et donc à 22h, un débat sur la figure de l'héroïne vengeresse,
ouais, c'est ça,
avec Alban Jamin, enseignant spécialiste en cinéma. Et là, c'est pour clôturer l'expression. Je propose, Raphaël, Nils, pour clôturer ce premier temps de parole, un titre, et ensuite, auditeur, auditrice, l'exposition se terminera certes.
Voilà. Mais
tout ne sera
j'ai quelques annonces à faire.
Tout ne sera pas fini, il y aura encore une suite.
Gros dispositif derrière.
Alors, il y a encore d'autres choses à venir.
Donc là, je propose, on va écouter Démonia.
Groupe brésilien.
Brésilien, un groupe très récent, elles sont année 2010. Et le titre, c'est Bébé. Alors, je suis très très mauvais en portugais, là. Le titre me revient plus.
Bébé do Midway.
Voilà. Je crois. Et c'est vraiment génial. J'adore ce groupe. Donc, voilà. Démonia.
Non, il me semble qu'il faut aller jusqu'au terme de ces morceaux punk parce qu'ils sont courts, mais jusqu'à la fin, la note est tenue. Nous parlons bien de l'exposition Rebel Girl, 50 ans de musique féminine et féministe, une exposition visuelle et sonore qui se termine ce vendredi 15 décembre. Nils, à l'instant, vient nous parler de le dernier moment de l'exposition, cette projection du film L'Ange de la Vengeance, un film d'Abel Ferrara, 20h-21h30, projection, 22h, débat animé par un spécialiste du cinéma. C'est ce vendredi 15 décembre à la galerie de Boskop qui se situe au 60 rue Sébastien Griff. Raphaël, vous allez nous dire que non, tout ne sera pas terminé ce vendredi 15 décembre.
Non, parce qu'en fait, nous on est parti juste sur l'idée de faire cette expo, d'essayer de partager en fait notre envie de défendre en fait tout cet aspect-là,
ouais, et puis la musique qu'on aime, ce qui nous intéresse vraiment,
et puis vraiment d'insister sur cette dimension féminine
et qui a un sens. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement un truc que vous aimez entre vous. Voilà, super. Il y a un vrai propos. Nous recevons la semaine dernière, nous recevions Clétine d'Astrid, une artiste qui dessine dans les rues de Lyon. Auditeur, auditrice, je répète le terme encore, des personnages certes, mais des personnages clito. Vous avez peut-être croisé Clint Burton, Clint Eastwood, et peut-être meilleur Clint Eastwood, Princesse Mononoclite, Clint Horus, il y a aussi qu'y a-t-il encore, il y en a tout un paquet, j'ai tous oublié. Et bien c'est intéressant quand même de tenir des propos qui sont
surtout
un peu,
aujourd'hui. Je citerai juste la situation aux États-Unis au niveau de l'avortement.
L'arrêt Roe versus Wade.
Et juste de rappeler, par exemple, lisez tous La Servante Écarlate de Margaret Atwood.
Il y a une série Netflix qui est facile à voir.
Le renvoi au livre, au fait qu'il a été écrit en 85 et que, aujourd'hui, la situation, on va dire, au niveau des droits, tout court, pour tout le monde, mais en particulier pour les femmes, est plutôt menacée dans pas mal d'endroits. Bon. Au niveau donc de Rebel Girl, l'idée, c'était à la fois de toute façon d'aborder le champ, on va dire, de la culture contestatrice au niveau du rock punk, mais on n'en reste pas là. Hein. On attaque aussi le monde du rock, de l'indie rock. On intègre aussi l'électro. L'idée, c'est simplement une question d'état d'esprit. Bref, ce qui s'est passé, c'est que depuis le 18 décembre, nous on est
novembre,
le samedi 18. Voilà. Hein.
On est un peu demandeur, c'est-à-dire qu'on n'a aucun lien avec le réseau de la musique. Sur Lyon, il faut savoir qu'il y a une énorme scène rock-punk et beaucoup de groupes justement mixtes et féminins. Et simplement, donc depuis le 18, ben, on a commencé à rencontrer des gens qui nous soutiennent, qui sont intéressés par le projet. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, le projet tout simplement devient un collectif. Et on est très content parce que, alors c'est un petit collectif pour l'instant, mais on est déjà à parité. Donc entre garçons et filles. Mais c'est un point très important.
Une question très très importante, voilà. Puisque comme du coup à la base quand même, c'est un projet qui porte sur la musique féministe et le punk féministe. Et à base on est juste, c'était mon
c'est
père
des garçons
moi,
en fait,
donc, deux mecs. Et donc ça a surpris. Un collectif, voilà. C'est vrai que ça a surpris. Donc arriver sur un collectif. Qui arrive à une parité, à une mixité, c'était vraiment un truc.
C'est vraiment un objectif.
Qui est un des premiers objectifs même en fait.
Ouais. Et une caractéristique quoi. Il faut que ça, on passe par là parce que sinon ça perd en crédibilité.
Et donc du coup,
en légitimité.
Parce que j'ai plein d'infos à donner.
On a encore une bonne 10 minutes. Auditeur du train. À 52, on va dépasser sur le blues des canuts qui n'a plus lieu à 15h. Il est déplacé à 16h donc.
Donc le projet devient Rebel Girl Work in Progress, ça sera le terme générique.
Avec un site peut-être ou quelque chose qui.
Je pense courant février, nous lançons un site de référencement. Donc là, c'est Clara, une amie qui va nous donner un énorme coup de main pour la création du site. Et donc l'idée, c'est un site de référencement avec l'ensemble donc des 600 formations plus tout ce qui va se rajouter derrière. Avec une structure de classification et l'idée, tout simple, c'est d'essayer d'en faire un site de référencement et qui puisse à toute personne qui aurait envie de découvrir par exemple la scène colombienne ou indonésienne sans en angle, alors toujours, je rappelle, féminin, alors rock punk, féminin et mixte, donc simplement on a mis de côté les groupes masculins, mais voilà, l'idée, c'est que tu puisses aller sur le site et découvrir la scène colombienne ou la scène canadienne avec tous ces groupes qu'on a évoqués.
Japonaise, chinoise, sud-africaine, donc
tout
ça va.
Tout. En fait, l'idée aussi très importante, refus de toute forme d'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'on a une vision planétaire. Le rock punk, dans sa manière très large musicalement, c'est une expression universelle et tu peux habiter au fin fond des Philippines ou au fin fond de la Colombie ou au fin fond de la Suisse, il y a des groupes, il y a des gens et c'est vraiment une forme d'expression universelle.
Raphaël, il y en a des Philippines, des Philippines.
Oui, les Philippines.
Ouais. La scène punk philippine est quand même très importante.
C'est pas important, le Rodrigo Duterte qui est là-bas. Pas Rodrigo Duterte le président.
C'était aux Philippines, mais je crois qu'ils ont changé depuis.
Heureusement, ils sont passés à un autre.
Mais aux Philippines, non, en fait, on n'a pas beaucoup de groupes pour l'instant, mixtes et féminins. J'en ai trouvé qu'un, mais c'est surtout la scène indonésienne, pour le coup, qui est beaucoup plus importante.
C'est juste parce que je connais quelqu'un qui vient des Philippines et qui vient de la scène punk hardcore là-bas.
En Philippines, la question, c'est qu'on a une forme de déformation puisque j'y élimine en fait les groupes masculins. C'est-à-dire que la scène philippine est extrêmement importante au niveau rock punk, mais j'ai pas ce filtre qui est, j'exclus en fait les groupes masculins. Donc du coup, par exemple, les groupes mixtes ou féminins qui apparaissent au Singapour, en Indonésie, là, sont plutôt des groupes a priori récents. Donc les années 2010. Voilà.
Enfin bon. Comment tomber sur le site? Une simple recherche courante?
Alors pour l'instant, le site n'existe pas.
Oui,
d'accord. Mais vous pouvez déjà aller sur. Donc ça, c'est une partie du projet. Donc site de référencement avec plein de choses qui vont se développer autour. La deuxième axe du projet, c'est une chaîne YouTube. Donc ils appellent Rebel Girl Work in Progress, qui est déjà active. Alors pour l'instant, on a mis surtout des teasers pour annoncer nos soirées dans le cadre de l'exposition. Mais la chaîne, ça y est, elle est activée. Et à partir du 15, on va commencer à faire la publication de playlists. Donc la chaîne YouTube va se composer en deux piliers. Il y a le pilier travail d'archivage, playlist pour les groupes. Donc là, par exemple, du 15 au 30 décembre, parce que j'ai des limites pour mettre toutes les vidéos, c'est des problèmes juste techniques, mais du 15 au 30, il y aura la mise en ligne de toute la playlist Japon. Donc il y a à peu près 130 groupes, formations qu'on a pour l'instant rassemblés.
Mais c'est énorme, 130
groupes. Et il y aura tout un travail, c'est-à-dire qu'en fait, les vidéos, il y a une fiche Signality qui renvoie au lien d'origine. Bon voilà, il y a un petit travail, qui est un vrai ou qui ont une vraie volonté d'avoir un travail d'archivage. Donc les groupes sont présentés d'ordre chronologique, donc des années 80. Alors premier groupe au Japon, c'est 81 pour le coup, jusqu'à aujourd'hui. Et il sera indiqué simplement, par exemple, ben là je peux déjà le dire, clip 1 à 9, ce sont les années 80. Parce que bon, sur YouTube, c'est un peu compliqué à gérer, donc on va partir sur une base playlist et il sera indiqué en fait les sections clips qui correspondent à telle période, comme ça les gens peuvent naviguer à l'intérieur. Et l'autre, pendant l'autre pilier qui est super important, et c'est là où je voudrais vraiment communiquer, c'est les interviews. C'est-à-dire en fait l'interview qu'on a fait avec les Sub Girls à l'origine, on s'est juste pris de culot. On s'est dit on va les contacter. Parce qu'on voulait souhaiter juste avoir, on va dire, un petit témoignage vidéo dans le cadre de l'expo. Simplement, bah, de la question, on est arrivé à 15 minutes d'entretien. Donc on a fait une première version bêta qu'on a présentée donc la semaine dernière, samedi.
Je vous même 30 minutes
ouais, non,
durée
en fait,
du documentaire.
C'était,
il y avait un clip, il y avait des choses.
C'était une base de départ. Bon, on l'a réduite pour l'instant à 15, c'est une version bêta. Et donc, l'idée de la chaîne, et on est déjà, alors on a fait donc l'interview des Sub Girls, donc deux sœurs sud-africaines. Bon, elles sont blanches, elles sont nées en France. Donc l'interview est aux trois quarts en français. Mais depuis... Ben, on s'est pris au jeu et on va dans un lieu que nous apprécions énormément, le Troxon. Donc je me permets de le...
Après c'est parce que pour l'instant voilà. Tous étaient là, mais
c'est sur les pentes, hein, c'est ça.
Voilà, ouais. C'est sur les pentes.
Mais après il y a pas un lieu qu'on...
Oui, mais le Troxon est un endroit vraiment extrêmement agréable. Et du coup, on a pu interviewer il y a moins de 15 jours Gutara Kyo, qui est une formation japonaise avec une batteuse qui font du punk rock hardcore. Et on a fait aussi la semaine dernière une interview avec la formation argentine Fin del Mundo, entièrement féminin, et on a passé une soirée géniale avec elle. Et ça ne fait que justifier, quoi, ça ne fait que nous motiver en fait dans le projet.
Et puis demain on passe aussi avec...
Et demain
il y a un groupe qui passe au Troxon, de grunge de Lyon.
Ouais, si, ils sont, oui, sont de Lyon. Ils sont de Lyon.
Marie Killjoy.
Et donc on est rentré dans un processus où il y a des personnes qui nous ont rejoints. Et donc là pour l'instant je vais un peu citer l'équipe de départ, c'est Romy et John qui nous ont rejoints, qui nous ont amené quelque chose d'extraordinaire. Depuis, bah il y a Clara, il y a Mathilde, il y a Manon, voilà, ouais, qui nous ont rejoints chacune à leur manière. Et donc à partir de janvier, donc il y aura la publication du premier interview, donc les Sub Girls. Et l'idée, c'est de pouvoir interviewer un maximum de formations mixtes et féminines. Donc notamment, on va travailler autour de la scène lyonnaise, parce qu'il y a énormément de groupes. Mais là, on prévoit en fait, on est en train d'essayer de mettre en place non pas un système, mais un peu des mécanismes. C'est-à-dire qu'on y va, nous, juste avec une caméra, le micro, et on se débrouille. Là par exemple Gutara Akio, l'interview a été particulièrement rock'n'roll, notamment parce qu'il parlait assez peu anglais, nous on n'avait pas de personne qui parlait japonais, donc ça a fini avec du Google Trad sur les téléphones avec des réponses. Bon, mais l'idée c'est d'avoir justement ce côté vif, instinctif, on y va.
Ça peut se faire, ça, une interview rock'n'roll, voilà. Pour du punk, c'est pas... tant que c'est pas pop ou électro, ça peut aller,
voilà.
C'est ça.
Et pour les groupes lyonnaises, en fait, donc on a envie de proposer à chaque fois une interview, on va dire, post-concert, avec les conditions telles que c'est. Et puis, pour donc la scène lyonnaise, on aimerait pouvoir faire des entretiens plus longs pour pouvoir justement aborder l'histoire de la scène lyonnaise. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Mais on ne s'arrêtera pas non plus uniquement aux musiciennes, on compte aussi pouvoir s'entretenir avec l'écosystème technique, c'est-à-dire les techniciens, ouais, les programmatrices, parce que ça fait partie aussi de... Elles ont plein de choses à nous raconter. Donc ça se met en place à partir aussi de janvier-février. Pareil, les interviews, par exemple, pour Final Mundo a été entièrement en espagnol. Donc nous, on va se charger de traduire, mais on insiste aussi énormément sur le fait que les personnes parlent dans leur langue
maternelle.
On insiste aussi sur le fait que si les filles ne souhaitent pas être interviewées par un garçon, bah elles le seront plutôt par une fille. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des équipes mixtes pour pouvoir faire les entretiens. Et l'anecdote, c'est juste Romy, quand on a fait l'entretien avec Gutara Kyo ou même avec Fin del Mundo, le fait d'avoir une camarade fille, elle nous amène quelque chose d'autre au niveau des questions. Romy, par exemple, a une idée sur Gutaracchio, sur la notion de piercing, qui, moi, m'était pas venue en tête. Donc, il y a vraiment un équilibre, il y a quelque chose sur lequel on insiste. Donc, voilà.
Et, mais je crois voilà. que Nils l'a dit tout à l'heure, hein, nous sommes là trois hommes blancs, une oui, quarantaine d'années. Nils, c'est pas tout à fait votre cas, non, mais bon, enfin voilà. Et quelle est notre légitimité pour parler mais, ouais. Et puis, nous rendons-nous bien compte de ce que nous disons. Ben, voilà. Non.
Mais ça ne nous empêche pas de lancer le projet.
Et ça peut être très bien d'être accompagné.
Oui, parce que de base, on n'avait pas prévu ça, donc c'était pas un truc qui n'était forcément venu, mais comme là ça prend une ampleur vraiment assez dingue, c'est vrai que c'est primordial quoi.
Bah, oui, parce que nous, notre point de vue complètement masculin. Et d'ailleurs,
juste un détail, Grim qui est avec nous, lui s'occupe de la partie réseaux sociaux.
Donc il faut que Grim dise coucou, au moins bonjour Grim.
Bonjour.
Alors, on l'a bien entendu, il est bien présent.
Mais juste par rapport, pour cette histoire d'importance.
Mais Instagram, c'est quel compte? Il y a un nom?
Vas-y. Rebel Girl Whip.
Tout accroché, R-E-B-E-L.
C'est Rebel Girl tiré du bas. Non, c'est Rebel.
R-E-B-E-L, tiré du bas, 6.
Girl.
G-I-R-L.
Tiré du bas, voilà. Et Whip, W-I-P.
Il n'y a pas de girl avec 3 R.
Non, parce qu'on...
Et WIP, WIP, pour quelle raison ce WIP?
Work in progress. En fait, on est obligé, on ne peut pas faire le nom en complet. Mm. Mais on insiste sur le fait que l'idée est Rebel Girl, Work in progress, parce que c'est quelque chose qui sera toujours en cours et en chantier. Donc voilà, ça nous paraissait. Non, je voulais juste revenir, notamment notre rencontre avec Finel Mundo. C'est aussi, on a pu parler, on a parlé de musique, mais on a aussi parlé notamment par exemple de science-fiction. Et je trouve ça génial de pouvoir justement échanger, de transmettre. On s'est débrouillé, on parlait anglais, espagnol, français. Moi, je parle comme une chèvre espagnole en anglais.
Une vache
espagnole.
C'est très bien. Pourquoi pas une chèvre? Ça donne encore mieux l'idée.
Mais oui, non, parce que je me considère vraiment comme une chèvre au niveau gestion des langues. Je suis pas doué pour ça. Mais voilà, il y a eu une émulsion et le fait d'être mixte. C'est-à-dire que notre équipe, il y avait donc Romy qui était là, ça amène quelque chose, il y a un rapport. Et du coup, je pense que, voilà, d'où nous, c'est pas une obsession, mais vraiment de mettre en objectif prioritaire le fait d'être mixte dans notre structure, parce que nous parlons de mixité, parce que nous parlons voilà, de l'apport féminin, et on s'est rendu compte juste sur deux interviews que cet apport féminin est vraiment considérable.
Je pense à un homme. Nous recevions Cyril Michaud, l'émission 304, le mercredi 28 juin dernier, pour l'exposition qui était à la bibliothèque de Lyon, l'exposition Contrebande, musique alternative et culture cassette, années 80-99. Et il me semble bien qu'il annonçait une exposition à venir à la bibliothèque de Lyon sur le rock lyonnais. Je pense qu'il y aura également une partie sur le rock féminin, mais bon, c'est plutôt rock. Vous, c'est vraiment un punk, vous l'indiquez.
Il y a
une ouverture
très large. Punk au indie, parce que Findel Mundo, c'est clairement du indie un peu post-punk même. Donc on va très loin. Le grunge, la noise.
C'est quoi
l'état d'esprit
quand même.
Prenez un groupe comme Miel, là, que j'ai découvert récemment, un groupe canadien, c'est un duo. Ils font de l'électro-punk.
Il y a quand même le mot punk qui apparaît, non?
Nous, on va se baser sur l'idée vraiment de l'état d'esprit. Rien qu'un groupe féminin dans un pays X ou Y, ça a déjà en fait une importance. C'est déjà un choix, c'est déjà voilà une volonté. Donc du coup, non, faut qu'on intègre tout cet ensemble. Si on se fie juste au rock punk de base, effectivement, on va sucrer plein de choses. Non, c'est un état d'esprit. Et le punk ne s'incarne pas uniquement dans des standards stricts en musique, mais c'est un état d'esprit. Voilà.
À 15h05, voilà. Même il est presque, il est plutôt 15h06, on aurait dû terminer. Non, on n'a pas encore terminé, il nous reste encore quelques instants, auditeurs, auditrices, évoquer Spectaculaire 315, une émission, Nils.
Juste pour Rebel Girl. Non, pour Rebel Girl, en fait, il va y avoir normalement.
Oui, voilà.
On relance l'expo au printemps sur la Croix-Rousse. Donc l'exposition...
Mars, avril?
Alors on ne sait pas encore.
Ce ne sera pas avril. Non, c'est pas avril. Mai. Il a dit mars ou mai.
Ouais, parce que avril, moi, avril, je suis occupé avec le ministère.
Mais Zine avait dit.
Bon, on verra ouais. ça.
Et sur un lieu qui est encore.
Alors, il y aura deux lieux, et notamment il y a le Broc et puis un local du journal Le Zèbre, a priori. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de mettre en place une table ronde et il y a déjà des concerts prévus.
Donc, on parle de depuis le début de l'émission, on parle de musique, mais est-ce qu'il y a il y a de la vidéo, ça c'est une bonne chose déjà.
Ah ouais, à terme aussi, il y a les interviews, il y a tout ce qui a été. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est de commencer à faire des concerts, donc pour la plupart de la scène lyonnaise, puis après étendre de plus en plus à régional, national, et puis voire pourquoi pas international, et donc pourquoi pas dans, je sais pas, un ou deux ans, pourquoi pas créer carrément un festival en fait.
Voilà.
Parce qu'il y a une semaine avec plusieurs concerts ou une fin de semaine.
Ouais,
on verra.
Même ouais, plus. Hein,
parce que là, moi, ce que j'ai constaté,
un mois de
à
punk.
Fond, ouais, un mois de punk où au début, il y a une ouverture au GZ, une fermeture au GZ avec grosse soirée, puis des concerts au Troxon,
parce qu'il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail de promotion à faire. Nous, on a fait quelques concerts au Rock and Eat. Il y a pas assez de public. Parce que la date, ouais,
parce que le Rock'n'Roll c'est un repère de nazis et de violeurs.
Non.
Ah. Fin d'émission, je pense que nous nous reverrons. Je vais lancer quelques petites annonces. Voilà. Non, l'émission n'est pas encore terminée. Il nous reste encore quelques instants. Voir. Moi, je tiens quand même à ces annonces en fin d'émission parce que il se prépare tout de même des choses intéressantes pour cette fin décembre. On est le 13 aujourd'hui. Dans deux jours, ce sera la mi-décembre. Et donc, la dernière quinzaine de 2023. Il reste encore quelques petits spectacles intéressants pour la musique. À l'auditorium, il y a des concerts très classiques qui arrivent. Néanmoins, avec une pianiste portugaise, Maria Mali. Juin au Pirch, qui est ce jeudi 14 décembre à l'Orchestre National de Lyon, et un concert Tchaïkovski le samedi 16. Alors oui, c'est très très classique, mais ce qui est un peu moins classique, ce sont les CD. Oui, l'Orchestre de Lyon a fait différents CD, et alors si vous retrouvez Aux Étoiles, un beau bel album de deux CD de poèmes symphoniques enregistrés par l'Orchestre National de Lyon, avec des œuvres de Henri Rabaud, de compositrices, Charlotte Sow, oui, il y a aussi Mel Bonis, il y a également je crois qu'il y a aussi Emmanuel Chabrier. Bon, c'est quand même très très classique. Il y a aussi des choses un peu plus comme on les qualifie, un album enregistré avec Benjamin Biolay, qui est quand même bien. Et puis aussi Ron. Ah, Ron, c'est quand même sympa, non? Ron, c'est le DJ électro, je ne sais pas comment le nommer. Et puis il y a aussi encore un dernier album enregistré avec la compositrice Camille Pépin, une jeune compositrice lyonnaise, et un très bel album avec des morceaux assez intéressants que je pourrais faire écouter, mais ce n'est pas assez punk. Donc on fera peut-être l'émission prochaine. Donc voilà, les CD de l'Orchestre National de Lyon existent. Il y en a, je crois les avoir comptés, il y en a 5. Ils ont 4 albums, mais depuis avril dernier, sur cette fin d'année, si vous souhaitez en glisser sous le sapin de Noël, pourquoi pas. À l'Opéra Lyon, on va commencer l'Opéra Elias du 17 décembre. C'est ce dimanche jusqu'au 1er janvier, jusqu'au lundi 1er janvier 2024. Un Opéra Elias qui, en fait, n'est pas un opéra de Félix Mendelssohn. C'est plutôt un oratorio qui sera néanmoins donné à l'Opéra de Lyon en version opéra, c'est-à-dire chanteur sur scène, décor, mise en scène, etc. À venir un peu plus tard, à la rentrée du 2 au 7 janvier, Retour vers le silence. C'est intéressant, ce sont différents concerts à l'opéra Underground, c'est sous la scène principale, avec notamment la fine équipe de Superspective que nous connaissons, Camille Rona et François Mardi-Rossian. Camille Rona, l'un animera des sortes de conférences, et l'autre, François Mardi-Rossian, sera au piano pour interpréter différentes œuvres, dont notamment le 433 de John Cage. Vous connaissez ça, Nils? C'est un morceau qui, en fait, que John Cage a écrit, qui est, ça n'est pas de la musique. Enfin, comment dire, c'est 4 minutes 33 de silence. C'est assez punk, peut-être, comme idée. Il y a du théâtre aussi à venir. Les gros patinent bien. C'est au théâtre de Célestin. Ça a commencé et ça continue jusqu'au mois de janvier ou toute fin décembre. Il y a également Mort d'une montagne au TNP. C'est une pièce de François Hien que nous recevrons certainement en janvier prochain pour sa pièce qu'il est en train d'écrire. Je crois qu'il est en train de la finaliser. Le titre en est magnifique. Grimm. Éducation nationale. Ce sera au TNP à la rentrée prochaine en janvier 2024. Et il y a également un ballet à venir, la São Paulo Dance Company, est programmé à la Maison de la Danse. Ça a commencé hier le mardi 12 décembre, c'est donné jusqu'au 17 décembre, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche. C'est à la Maison de la Danse, et c'est assez des danseurs brésiliens, une compagnie assez récente, hein, 2008, mais une compagnie dont la renommée est absolument stupéfiante, la São Paulo Dance Company. Je la connais depuis très peu et elle est assez formidable. Olivier Borle sera notre prochain invité pour l'émission Spectaculaire 316 pour une pièce Suzanne qu'il mettra en scène à la Comédie Odéon en janvier prochain. Enfin voilà, ce sont les annonces, il y en a encore d'autres que je mettrai sur le site. 14h, 15h et 11 minutes, je crois qu'on n'a jamais autant dépassé Raphaël, mais il y a encore un mot à dire sur l'expo Rebel Girl qui se termine à la galerie de Boskop au 60 rue Sébastien Griffe dans le 7e arrondissement.
Bah, je vais juste rappeler que voilà, je suis là jeudi, vendredi, donc de 14 à 18h dans la galerie. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent passer.
Métro
voilà.
Saxe Gambetta, il faut ensuite marcher à peine.
Un petit peu, mais ça va.
5 petites minutes.
Voilà. Non, et puis moi je voulais juste saluer bah, du coup, les autres membres qui ne peuvent pas être là, parce que soit à Paris, même ou voire en Angleterre, mais du coup bah, Romy, Clara, Mathilde, Manon et John.
Voilà. Non, mais moi je le dis souvent en fin d'émission, je crois même l'avoir dit tout à l'heure, nous n'avons pas tout dit. Mais on se.
Ah non, bah non, on se reviendra. On reviendra. Alors,
pas avril, mais
ouais,
mars,
non,
mars voilà, ou mai mars, prochain.
Ouais. On aura plein de choses. Non, c'est un projet qui évolue, qui est vraiment enthousiasmant.
Ah, complètement.
Et, qui est extrêmement riche au niveau des rencontres. Voilà.
C'est clair. Donc, alors, quel titre on va finir pour s'enthousiasmer.
Et ben, du coup. De Demi Toys.
Non, j'ai pris un autre morceau de Demi Toys.
Ah, t'as pris quoi?
Sur le dernier album. Alors, donc, Demi Toys, c'est un groupe donc, de chinoises qui est très récent, à 2020.
Quel est le titre, Niels? Vous le connaissez?
Bah, du coup, non, celui-là, je sais pas.
C'est Disorder, normalement.
Disaster. Ah, je vois, Disaster comme titre.
Alors, préparez-vous parce que c'est du street punk, donc ça bouge.
Vous, Niels, ça aurait été quoi votre titre à vous?
Non, mais parce que j'avais pensé à.
Il y a Fin del Mundo qui est présent aussi sur la playlist que j'ai.
Je sais plus ce qu'il a mis.
Jigsaw Youth. Qu'est-ce que j'ai encore? Oula, qu'est-ce que c'est? Magnaticat.
Il y en a trop, en fait.
Et j'ai aussi Muffing People, We Can Make It Right. C'est du punk un peu, non? On peut faire ça mieux, on peut le rendre juste.
Oui, sinon, il y a Jigsaw.
Il y a Texoco, No Beach.
C'est USA, donc je pense Chine, c'est bien de finir sur quelque chose.
Donc Demi Toys, Disaster. J'ai manqué la nationalité de ce groupe.
Chine, du coup.
Chine.
Un groupe chinois. Raphaël, il faudra répéter ça dans une seconde. Que j'annonce les prochaines émissions à venir à 15h13. On n'a jamais autant dépassé. Blues des Canus, merci d'être passé à 16h. L'émission à 18h, ce sera Mayday. 19h, le Canu Info, hebdomadaire, quotidien de Radio Canu. 20h, Idées Noires, une émission de l'UCL. 21h, la bande-son de nos révoltes, musique radicale. Et propos engagés. Et à 22h, Bully Mix, émission Funky Stery. Est-ce qu'on pourrait mettre un P à la place du F, hein? Émission Funky Stery. Jal, je crois, faisait une émission sur Radio Canu, m'a-t-il dit, il y a quelques temps. Peut-être que vous pourriez prendre le relais, Niels, avec Krim aussi et Raphaël, une émission Funky Stery.
Mais bon.
Bully Mix sera à 22h. Là, tout de suite.
On parle de politique.
Nous écoutons.
Ah, mais si tu veux.
Dummy Toys, titre Disaster, un groupe, j'ai encore manqué nationalité.
Chine populaire.
Elle chante en anglais ou
Oui, elle chante essentiellement en anglais. Et groupe donc récent 2020 et font partie vraiment de la nouvelle scène.
Auditeurs, auditrices, portez-vous bien. Merci Raphaël, merci Niels, merci Grim. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Écoutez bien, les bandes continuent. Et pour l'instant, donc Disaster, un tout petit mot de la fin. Quoi. Elles sont décoiffantes.
C'est vraiment. Je ne sais pas si on voit un peu le cliché des punks, carte postale avec les gros pics sur la tête, les vestes en cuir, tout ça. C'est elle.
Sauf qu'elles font.
C'est génial. Voilà. Et ça va à fond.